Bonjour, c'est aujourd'hui la fête du bienheureux Henri Suzeau que je compte célébrer avec vous à Rencontre spirituelle. C'est un Allemand, Henri Suzeau en dépit de son nom, oui, c'est pas vraiment son nom, c'est Heinrich Susan, mais enfin, ça n'a aucune importance. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, mais ce non plus, ça n'a pas tellement d'importance. Bon, on va passer à Henri Suzeau. Rapidement, parce qu'il y a de très belles choses. Je vous cite tout d'abord une de ses paroles dans le grand livre des lettres. « Si vous voulez recevoir de Dieu une nouvelle lumière et une nouvelle grâce, apprenez à apprécier ses dons et à lui être reconnaissant pour tous les biens que vous avez reçus de lui. » C'est simple. Être reconnaissant, puis le louanger, l'aimer. C'est simple. Si vous voulez recevoir de Dieu une nouvelle lumière et une nouvelle grâce. Dans un ouvrage que j'avais acheté, mon Dieu, en 1948, c'est pas d'aujourd'hui. Ça coûtait $3 à l'époque à la librairie des hommes. C'est le bienheureux Henri Suzeau. C'est presque 600 pages. C'est dans la collection Les Maîtres de la spiritualité chrétienne. C'est des textes et des études qu'on publiait à l'époque chez Aubier, une grande maison d'édition. Avec une introduction de 166 pages, ça a presque 600 pages au total, ce volume. Ça coûtait $3 quand on pense. Évidemment, $3 à l'époque, c'est plus qu'on pense, mais quand même, c'était merveilleux et je lus assez là-dedans. Pas trop, parce que c'est pas tout à fait la spiritualité aujourd'hui que je vous recommanderais. Allez plutôt vers le père François Varillon, décédé en 1978, ce jésuite admirable. Qui a écrit de bien beaux livres qu'on trouve en librairie, François Varillon. Mais ne vous éloignez pas, car Henri Suzeau est un très grand mystique, c'est un des plus grands mystiques de son époque. C'est un disciple de Maître Eckhart, le fameux Maître Eckhart dont je compte bien vous parler un de ces jours. Et Henri Suzeau a écrit des ouvrages fantastiques, superbes, merveilleux, merveilleux. Dont l'un sur la sagesse éternelle. C'est un livre qui lui est venu d'une révélation qu'il a eue très jeune, alors qu'il était chez les Dominicains. Car il est entré chez les Dominicains très jeune, vous verrez. Il est entré à 13 ans. C'est inimaginable. D'ailleurs, d'après le témoignage de la vie, c'est un de ses ouvrages, c'est sa vie, son autobiographie qui lui avait été demandée. Son père, Henri Suzeau, était un, comme on disait à l'époque, un enfant du monde. Disons que c'était un mondain, un homme attaché aux choses superficielles. Et sa mère, d'après ce texte, eh bien, Dieu avait opéré en elle des merveilles de sa grâce, non forcément des miracles. Et elle eut beaucoup à souffrir tous les jours de sa vie. D'ailleurs, il nous est expressément rapporté que ses souffrances provenaient de la différence entre son caractère et celui de son mari. Ce qui arrive malheureusement de temps en temps, n'est-ce pas, si je me trompe pas, dans les mariages, surtout de nos jours. Elle était, elle, remplie de Dieu, dit le texte de Henri Suzeau. Et elle eût voulu vivre uniquement pour lui. Rempli du monde, il s'y opposait, dit le texte. Avec vigueur. Il s'y opposait très fermement. Or, elle aurait vraiment voulu vivre pour Dieu. Mais le texte en dit long, d'ailleurs, et par lui-même, et par les rapprochements qu'il suggère. Hein. Car on connaît assez la rudesse des gens de cette époque. C'était une époque extrêmement dure. C'est la fin du 14e siècle. C'est une époque pénible. Une époque vraiment dramatique. Car Henri Suzeau est né à Umberlingen, 21 mars 1295, peut-être 96. Son père était de la famille des Berg. Sa mère de la famille des Suzeau, ou Seuse. Et il a préféré porter le nom de sa mère. Ça se fait aujourd'hui encore, hein. C'est revenu à la mode, et ça l'était déjà dans le temps. C'était à une époque, d'ailleurs, où les noms de famille n'étaient pas nécessairement très, très répandus. Oui, les noms de famille sont apparus à peu près à cette époque, si je ne m'abuse. Et donc, la rudesse des hommes envers les femmes de leur famille était terrible. Souvent, quand la femme sentait une vocation et avait le goût de se retirer dans un cloître, car il n'y avait que des cloîtres à l'époque, il n'y avait pas de communauté active, dans le sens où on l'entend aujourd'hui, bien, les hommes s'enrageaient. C'est pas nécessaire d'aller en Italie pour voir des brutalités comme celle de Monaldo à l'égard de ses nièces Claire et Agnès d'Assise, hein, autour de Saint-François d'Assise. Oui, oui, il y a eu des violences épouvantables. Quand on lit ça, on est effaré, on s'imagine que ça n'a pas de sens. Il y a aussi la famille d'Andalo vis-à-vis de Diane, la dirigée de Saint-Dominique et du bienheureux Jourdain de Saxe. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, on l'a arraché à son monastère avec une telle violence qu'on lui avait cassé une côte, puis elle est demeurée malade pendant près d'une année. Et c'est après sa deuxième évasion seulement que la famille s'est rendue au fait que, bon, ben, il y avait rien à faire. Diane pouvait devenir moniale. Et plus près de Suzeau, ben, il y avait Adelheid de Sigolsheim, Niedwige de Guldelsheim, les moniales dominicaines d'Unterlingen à Colmar, qui sont victimes, elles aussi, de leurs proches pour l'amour de Dieu. D'ailleurs, dans l'ouvrage très réputé « L'Horologium » de Suzeau, bon, le titre est latin, mais évidemment, on a des traductions françaises, bien, Suzeau lui-même, il fait mention d'un homme comme ça, en le nommant Léo, mais ça veut dire lion, là, c'est pas un Léo, c'est pas son prénom, Ferocissimus, c'est-à-dire le lion très féroce. Je vous raconterai pas l'histoire, c'est un peu compliqué. En tout cas, on peut plaindre la mère de Suzeau si elle avait un époux de ce genre-là. C'est des époques tellement plus dures que la nôtre qu'on s'imagine que la nôtre est plus dure que toutes celles qui ont eu lieu avant. Mais il faut bien étudier l'histoire pour se rendre compte que notre époque est, malgré tous ces crimes, toutes ces horreurs, une époque, finalement, plus calme pour ce qui est de la vie en société. Pas pour les guerres et les exécutions et les drames qui se sont déroulés depuis 1917, avec les dizaines de millions de gens qui ont été exécutés ou tués, qui sont morts de force dans des camps de concentration. Alors, notre bienheureux Henri Suzeau n'avait que 13 ans. Quand il est allé demander l'habit de Saint-Dominique, des Dominicains, au couvent de Constance, en Allemagne, il a compris la beauté du renoncement. Ce renoncement qui vide le cœur. Hein? Ça vide le cœur de quoi? Du monde. De soi-même. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour le remplir de Dieu. Hein? Alors, son année de probation terminée, il a fait, dans la sincérité de son âme, le vœu des Dominicains. Mais un vœu très simple, un vœu d'un enfant, quoi. D'obéir à Dieu, à la bienheureuse Vierge Marie, à Saint-Dominique et au maître de l'ordre des Dominicains. C'est la formule de profession des Dominicains dans ce temps-là. Ils l'ont probablement gardée, d'ailleurs. Mais les progrès d'Henri de Suzeau ne répondait pas aux espérances qu'il avait, parce que même très jeune comme ça, il avait des espérances de sainteté. Comme bien des enfants, hein, à cette époque, et même, moi, dans mon jeune temps, une grande partie des jeunes rêvaient d'être des saints. On rêvait plus d'être des saints que d'être des joueurs de hockey. Durant 5 ans, d'ailleurs, il a vécu dans une certaine tiédeur après ça. Il a profité, on peut dire sans scrupule, des espèces de tolérance de ses supérieurs, qui étaient un peu relâchés, semble-t-il. Un peu, dit-on, comme bien des supérieurs aujourd'hui, dans bien des communautés d'Occident. C'est les observations qu'on lit dans des études très intéressantes actuellement sur la vie religieuse, en dépit des réformes qu'ils ont essayé de faire depuis le Concile, avec une grande noblesse en se rapprochant de l'Évangile et des pauvres. Alors le problème existe, paraît-il. De toute façon, les Dominicains, à cette époque, étaient célèbres et réputés pour leur science, comme ils le sont toujours d'ailleurs. Et voilà de quoi satisfaire, à défaut de mieux, la vanité mondaine de son père. Une atmosphère de chaude piété, la mère n'a pas de meilleurs rêves, elle, de son côté. Et sans doute que, en ce 14e siècle qui débute, la discipline des couvents dominicains n'est pas aussi rigoureuse qu'au début de l'ordre. C'est la rançon de la gloire. Le rayonnement de l'ordre des dominicains avait attiré des âmes qui n'ont pas tout à fait rompu avec ce qu'on appelle les liens du monde, les habitudes mondaines, les habitudes légères. Je crois que ça arrive encore aujourd'hui. Ça arrivera toujours. Le monde change peu. Et le cloître de Constance semblait bien, lui aussi, d'après divers indices qu'on a sur cette époque, était sur la pente du relâchement. Cependant, faut pas attacher au fait que Suzo ait été troublé. Il faut pas y attacher trop d'importance. L'âge de l'entrée dans les ordres n'a pas été fixé à 15 ans. On l'avait accepté, lui, à 13 ans. Ça nous semble très, très jeune. Je vous ai signalé hier que des filles se mariaient à 12 ans. Oui, moi, ma grand-mère, je vous l'ai dit, s'est mariée à 16 ans. Mais c'était il y a très longtemps. Je suis le plus jeune d'un cadet d'une famille, lui, de 17 enfants. Alors, moi, j'ai jamais connu mes grands-parents qui sont nés au milieu du siècle dernier. Mais c'était comme ça autrefois. Il ne faut pas trop se scandaliser quand on donne des âges comme ça, hein. Et alors, il y a eu, lui, donc, une autorisation du provincial pour entrer à 13 ans. Et ses parents ont donné au couvent, semble-t-il, un don. Et puis, Henri Suzo a eu des scrupules au sujet de ce don. Il s'est demandé si ses parents n'avaient pas acheté son entrée à 13 ans. De toute façon, ça n'a guère d'importance parce qu'il y a fait une vie extrêmement intéressante, mais difficile. Quand on parle de l'ordre dominicain, on parle d'études. Le novice doit connaître le latin, la logique, la rhétorique. Et dès son entrée, il va les apprendre à l'école du couvent. Tel est certainement le cas de notre Henri Suzo. D'ailleurs, il faut féliciter les professeurs et l'élève particulièrement de la maîtrise avec laquelle il écrit en latin. Il a écrit tous ses ouvrages en latin, c'est très bien écrit. Particulièrement son Horologium Sapientiae, ou l'horloge de la sagesse, si vous voulez. Ce sont des titres curieux de cette époque, mais il faut lire, ce sont des ouvrages mystiques qui sont très intéressants, mais délicats à lire, hein, je vous préviens. Mieux vaut lire Varion, je vous l'ai dit, et d'autres auteurs de notre temps. Après son année au noviciat, le dominicain doit s'appliquer pendant 2 ans à ce qu'on appelle l'office divin, c'est-à-dire apprendre à prier ensemble et à réciter, à chanter le bréviaire. Et puis, il fallait aussi qu'il étudie les constitutions de l'ordre pour savoir à quoi il s'engage quand il fait ses vœux, quand il s'engage, puis qu'il veut devenir dominicain pour toute sa vie. Ensuite viendront 5 années de philosophie. La philosophie, à cette époque, était nourrie d'Aristote, évidemment, le grand philosophe grec. Puis de 3 années de théologie, hein, 1 an pour le cours de Bible. Oui, la Bible, car la théologie, à cette époque, est fondée sur la Bible. Elle est toujours fondée sur la Bible. Vous savez, les gens qui s'imaginent que les catholiques sont loin de la Bible sont très, très, très en retard sur l'étude de l'histoire de notre Église. 2 ans aussi d'études pour les sentences de Pierre Lombard. C'est trop long à vous expliquer, je vous en ai déjà parlé de toute façon. Et la théologie avait comme base, je vous l'ai bien dit, l'Écriture sainte, et depuis 1278, bien, l'enseignement de la doctrine de saint Thomas d'Aquin était devenu obligatoire dans l'ordre. Tout récent. C'est au cours de ses années d'études, donc, 5 ans après son entrée au cloître, quand il a atteint l'âge de 18 ans, que se produit un événement capital de sa vie religieuse. Je ne vais pas prendre, moi, au sens le plus dramatique, les textes où il dit de lui-même qu'il se fourvoyait dans les chemins, qu'il l'éloignait de Dieu, dit-il. Parce que les saints nous ont habitués à ces exagérations. Ils parlent d'eux-mêmes quand ils étaient jeunes. On dirait que c'est tous des criminels, des êtres abominables. Parce que ceux que Dieu appelle, ils ne peuvent pas se satisfaire longtemps d'une vie ordinaire moyenne. Quand ils se sentent appelés jusqu'au tréfonds de leur être, là, Le fait d'avoir vécu de façon ordinaire leur semble avoir été comme une espèce de péché contre cet amour fantastique qu'ils découvrent dans le cœur de Dieu. D'ailleurs, sa biographie parle d'une soudaine conversion. Alors, il faut sans doute entendre par là que Suzo est passé de la vie ordinaire du cloître, là, honnêtement menée, sans trop de rigueur, là, à une ascèse beaucoup plus dure, puis à une piété beaucoup plus fervente. Hein. C'est un enfant encore naïf, dans un sens. Il ignore la nature de l'amour. Il est frappé de trouver dans la Bible des paroles là, qui l'invitent à aimer la sagesse. Et au cours des lectures qui se font dans son couvent, les lectures à haute voix, il entend que l'on loue, on louange la divine sagesse comme une amie. Une amie d'élection, une épouse chérie. Alors il se rappelle avec joie les paroles qui invitent à aimer Dieu. À aimer Dieu comme étant la sagesse souveraine. Puis ça, il transcrit les paroles. Alors là, le temps écoulé, il grandit, hein, son cœur devient tout gonflé d'un désir qu'il comprend mal. Et les beaux textes des livres de la Bible, les livres sapientiaux, remplis de poésie de promesses. Vous savez, ceux qui commencent la Bible par le commencement risquent de se tanner, comme on dit vulgairement. Faut aller vers les livres sapientiaux. Oui, l'Ecclésiaste, des choses comme ça, le livre de la sagesse, c'est si beau. Alors, c'est ça qui le frappe. Hein. Et puis, ça l'enflamme toujours davantage. Il veut s'unir à cette sagesse, plus belle que le soleil. Puis, elle est plus belle aussi que toutes les étoiles qui éclairent le ciel, qu'il voit très bien à la campagne, sur sa petite île, parce que le monastère dans lequel il est à l'embouchure du lac de Constance, tout près à quelques mètres de la terre, hein, sur une petite île. C'est très joli d'ailleurs, c'était très très beau. Et puis, alors là, son cœur ne peut pas rester sans amour. Et puis, seul cet amour de Dieu peut le combler. Il le pressent. Il sait que c'est là qu'il sera rassasié. Mais le démon, évidemment, ou bien la lâcheté, l'insignifiance qui habite notre cerveau tout le temps, hein, lui dit qu'il est insensé d'aimer ce qu'on ne connaît pas. Mais une voix intérieure répond à ses murmures. Hein. Le propre de l'amour n'est-il pas de faire souffrir? Hein? Quand on aime, on souffre. Hein? Et la sagesse, c'est Dieu, le rassure. Il se laisse convaincre par Dieu. D'ailleurs, il lit dans la Bible, le vin et la musique réjouissent le cœur, mais plus que l'un et l'autre, l'amour de la sagesse. Alors parfois, ce jeune religieux dominicain, Henri Suzo, a bonne volonté, parfois il hésite. Est-ce qu'il va être de ces moines-là qui préfèrent les délices du corps aux délices de l'esprit, de l'âme? Ou bien s'il sera de ceux qu'on rencontre nombreux en ces jours de relâchement, qui aspirent à toutes sortes de joies divines sans vouloir pour autant dire adieu aux joies qui passent, les petites joies idiotes? Il est impossible de concilier les petites avec les grandes. Alors, des combats intérieurs qui se livrent dans le cœur de Henri Suzo. Ça se prolonge jusqu'à ce qu'enfin, il ressente une invitation pressante. Celui qui me trouve a trouvé la paix et il obtient la faveur du Seigneur. C'est dans le livre des Proverbes, dans la Bible. Sa décision est prise, il va risquer tout afin de conquérir la sagesse. Mais si du moins il lui était donné de la voir, il voudrait la voir. Et c'est étrange qu'il lui arrive. Je vous ai dit tout à l'heure que ce serait étrange. Elle apparaît alors aux yeux de son âme. La sagesse est assise sur un trône d'ivoire parmi les nuages. Resplendissante d'or et de gloire, elle est vêtue de béatitude, ayant pour une couronne l'éternité telle que l'évoquent les livres saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le comprends pas, je suis pas un mystique. Je lis ça, je trouve ça beau, je m'émerveille, mais je ne sais pas saisir. Et je le crois. Je ne dis pas que cette apparition était véridique. C'est peut-être simplement le fruit d'une imagination guidée par Dieu. La sagesse est à la fois proche et lointaine, immuable. sans cesse en mouvement, présente, accessible, pourtant indiscernable. Henri Ciseaux croit avoir affaire à une jeune fille. Soudain, ce sont les traits d'un adolescent qu'elle porte, aussi vénérable que le plus savant des maîtres, et en même temps toute grâce et beauté. Elle se penche aimablement vers lui et lui dit « Prebe fili cortum mihi », ce qui veut dire « Donne-moi ton cœur, mon fils ». Et ses paroles le pénètrent de douceur, il se jette à ses pieds confondu de joie. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une vision au sens théologique de ce terme, d'une espèce d'image entrevue dans le rêve ou le demi-rêve ou d'une parole intérieure dont son imagination de poète, parce qu'il y a une âme de poète, transpose dans le domaine visuel? Qu'est-ce que c'est? Il nous prévient dans la préface de l'Horologium que les visions contenues dans son livre ne doivent pas être toutes prises à la lettre. Mais les termes qu'il emploie ne nous permettent pas toujours de discerner. Il laisse parfois, comme ici, place à la discussion. Il faut revenir à saint Paul, qui explique ce que c'est que la sagesse. Et ça s'adresse à nous tous. Le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science divine. À quoi ça sert d'aller chercher chez Raël ou chez Pocky, quelque gourou quelconque, la sagesse? Elle est dans le cœur du Christ, dans l'Évangile. Mais notre adolescent, Henri Ciseaux, ne peut le comprendre parce qu'il ne sait pas encore aimer le Christ selon sa divinité. Et que son amour recherche les choses présentes plutôt que les choses futures. Pas nécessairement futures après la mort, mais les choses futures qui nous sont accordées petit à petit. Il a le goût des consolations sensibles alors que Dieu réclame de lui un amour plus haut, plus dépouillé, plus vrai, plus authentique. Et c'est alors qu'ayant achevé, on peut dire, ses années d'enfance, Henri Ciseaux reçoit un jour une grâce ineffable, dont les termes ne laissent place à aucun équivoque. Il est bien question cette fois du mystère des mystères, incommunicable à celui qui n'y est pas initié. Et tout absorbé en esprit, il est rempli d'une immense joie. Et dans cette vision, rien de corporel n'apparaît, non, non. Et cependant, elle resplendit de lumière et renferme en elle tout ce que l'âme peut souhaiter. Il ne contemple pas distinctement chacune des trois personnes de la Trinité, ni la divinité dans la simplicité de son essence, mais il reçoit d'elle ce que l'intelligence humaine peut saisir, de ce bien suprême et tout aimable. Il comprend que c'est là l'épouse qu'il recherchait, la sagesse éternelle. La sagesse éternelle. Quand on assiste à la messe, si on veut vraiment se laisser saisir par les textes même du canon de la messe, c'est-à-dire les textes que le prêtre récite à l'autel, hein, on appelait ça autrefois le canon de la messe, eh bien, si on se laisse pénétrer par le mystère trinitaire, si on se met vraiment en présence de la Trinité, on peut saisir de très 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 loin, comme quelqu'un qui regarde le ciel sans télescope, la beauté de l'univers. Ciseaux nous donne à la suite de cette vision d'ailleurs une justification théologique. Il dit quoi? Que chacune des personnes soit par elle-même la sagesse et qu'à elles trois, elles ne soient qu'une unique sagesse éternelle. La sagesse est plus spécialement l'attribut du Fils. C'est donc à lui surtout, en tant que Dieu et en tant qu'homme, qui rend désormais sa dévotion et son amour. Nous pouvons situer à cette époque, et sans qu'il soit besoin cette fois de supposer quelque déformation légendaire, les railleries des compagnons Ciseaux devant l'attitude qu'exige sa vie nouvelle. Plus de gaspillage de temps, plus de conversation frivole. Il s'est résolument séparé de ceux dont il plaindra plus tard le sort dans une lettre à l'une de ses filles spirituelles. Ses compagnons, les Dominicains, comprennent mal. Quelle étrange manière de vivre! Est-ce que la façon commune de se comporter serait pas la plus sûre? Et alors il se tait. Il vit le plus possible à l'écart et cette retraite lui a été pénible. Mais ensuite, comme on le lit dans sa vie, elle se transformera en grande douceur. Je vous disais donc qu'Henri Suzeau est transformé en grande douceur et plus encore qu'auparavant, cette sagesse éternelle, comme il l'appelle, Dieu, au fond, le Christ, sera maintenant l'objet de son culte, de sa ferveur et toute sa vie intérieure, jusqu'au plus intime de son être, est ordonné à son service. Il est jeune encore. Hein? Rien n'existe en ce monde dont elle ne soit la source. Est-ce qu'il n'est pas juste alors que toute douceur et toute beauté lui soient dédiées? Et c'est à elle qu'il pense quand il entend un chant d'amour. Il aime la solitude, où il l'invite à venir le rejoindre. Il la nomme dans le silence de son cœur, sa très noble impératrice, dit-il, reine toute belle, dispensatrice de toute grâce, et son cœur exulte de joie. Le propre de tout amant est de souffrir, nous a-t-il dit. Il acceptera donc, pour l'amour de celle qu'il a élue entre toutes, les pires tourments. Il va imposer à son corps et à son âme des lois et d'une rigueur extrême, comme on trouve souvent dans la vie de ces saints qui touchent à l'exaltation à un moment donné. Ils exagèrent. Alors Suzeau, tel qu'il se présente à nous désormais, c'est un jeune étudiant de 18 ans qui est mortifié, austère, recueilli. Mais dans son âme, une telle flamme, et puis de telles grâces. Son amour, sa raison de vivre se sont révélés avec tant de force que l'idée ne l'effleurera plus jamais d'être infidèle. Une fois achevées les années normales d'études, les jeunes dominicains, dont les capacités intellectuelles, la valeur morale laissaient espérer qu'ils feraient leur tour de bon maître, étaient envoyés à un endroit qu'on appelle le Studium Generale de la province ou de la région où est leur couvent. Alors là, ils approfondissaient pendant 3 années encore leur connaissance de la Bible. Oui, 3 années encore les connaissances de la Bible et de la théologie. Alors le Studium Generale, dont dépendait Constance, le monastère de Constance, était à Cologne, où il y a une cathédrale fantastique. C'est de toute beauté. Alors, ce couvent gardait le souvenir de saint Thomas d'Aquin, bien oui, qui l'avait illustré un siècle auparavant, puis le compatriote de Suzeau aussi, Albert de Lauingen, qui sait ça, c'est Albert le Grand, bien oui. Et c'est là que Suzeau était envoyé, après 1320, alors là il est soumis à une dure assaise, hein, en même temps qu'il est tout illuminé de dons secrets. Il est au pied de Maître Eckhart, le maître entre les maîtres, c'est lui qui l'a comme professeur. Ayant supplié le Seigneur de lui permettre de parvenir, dès ici-bas, à la connaissance de la plus haute philosophie, il voit la foule innombrable de ceux qui s'appliquent aux arts et aux sciences, et ça lui semble invraisemblable. Mais il est déçu. Il écrit que dans leur bouche, l'éloquence se tourne en fiel. Il n'y va pas de main morte. Hein? C'est un curieux personnage, hein? Je vous l'ai dit. Leurs paroles, dit-il, frappent les oreilles et ne touchent pas les cœurs. Car ces théologiens-là aspirent aux dignités, aux honneurs, aux biens terrestres, prétend-il. Ils étudient la sagesse, mais vivent loin de ses lois, prenant bien soin de leur corps. Bon, je vous lis pas tout parce que vous seriez terrifiés. Leur doctrine ne leur est pas dictée par la sainteté de la vie, dit-il, mais par la prétention. Il va même jusqu'à dire « et la jactance ». Vous regarderez dans le dictionnaire, c'est pas très gentil. Il prétend que ces théologiens dédaignent les livres de piété tels que les vies de saints et les collations des pères, c'est-à-dire les écrits des pères. On a rassemblé les pères de l'Église, les pères du désert, les écrits des premiers siècles, quoi. J'en ai souvent parlé. Et seuls les intéresseraient, d'après le bienheureux Henri Ciseaux, les livres qui contribuent à emplir leur bourse. Il est jeune, il est sévère. Bien rares sont les hommes d'études qui, en opposition à ceux-là, s'appliquent de tout leur zèle à la contemplation des choses divines et à l'amour du bien suprême. À ceux-là seuls, pourtant, il est donné de goûter combien le Seigneur est doux. On lit ça dans son Neurologium. Pour ça, je vous dis que c'est pas nécessairement des choses à lire. Et on voit donc par ces pages qu'Henri Ciseaux, qui est plutôt tendre habituellement, presque toujours, il peut se montrer aussi amer que caustique. Il a eu à souffrir de ce milieu qui était si peu accordé à sa propre ferveur spirituelle. Et d'après un autre passage, d'ailleurs, dans l'Horologium, il semble même qu'il ait couru le risque d'en être à son tour contaminé lui-même, et alors qu'il s'applique aux sciences humaines, c'est-à-dire à la philosophie. Il commence à un moment donné à désirer plus qu'il ne convient là, les petits honneurs, puis les petites dignités temporelles, puis les petites bébelles. Sur le point d'accéder d'ailleurs à ces honneurs, convoité, ou le titre de magistère, probablement, sans doute on accordait ce mot maître, il se prend à réfléchir à ce qui vaudrait le mieux pour lui, ce qui plairait vraiment à Dieu. Une fois après matine, il demande à Dieu de le lui révéler. Et là, il a une inspiration intérieure bouleversante. Je passe dessus parce que c'est tellement curieux. Et c'est alors, de toute façon, que suffisamment renseigné par Dieu, il décide de rester dans sa province, de quitter les écoles qu'il estimait être assez bien dirigées par les autres. Il renonce, il choisit de se conformer à l'enseignement du philosophe qu'il a vu en rêve. Alors ainsi donc, Henri Ciseaux ne part pas pour Paris, puis il revient à son couvent de Constance. Il retrouve la paix en Dieu. C'est à ça qu'il aspire. Mais ça ne lui sera pas donné. La biographie parle en termes précis d'une persécution qu'il a eu à souffrir, qu'il faut situer à cette époque. Ciseaux fut envoyé à un chapitre de l'ordre qui se tenait aux Pays-Bas, et deux personnages importants se sont dressés contre lui avec vigueur. On lui a reproché beaucoup de choses. Une de celles-ci, c'était d'écrire des livres, ou un livre, contenant de fausses doctrines, qui répandent, disait-on, l'impureté de l'hérésie dans tout le pays. Il se présente, lui, le cœur tremble. On lui adresse toutes sortes de reproches. Et on le menace de peines rigoureuses, bien qu'il soit innocent, hein, vraiment innocent devant Dieu, devant le monde. Alors, dès le moment où Ciseaux doit renoncer à sa charge de professeur de lecteur, vers 1330 environ, peut-être un peu plus tard, sa vie apostolique va commencer véritablement. Là, ce ne sera plus l'enseignement, c'est la prédication. Un vrai frère prêcheur, vous savez que les dominicains, on les appelle des frères prêcheurs. Il a entre 35 et 40 ans, et d'après la biographie, c'est l'âge de 40 ans, à l'âge de 40 ans que prennent fin ces grandes mortifications. Et là, sa vie spirituelle sera dorénavant toute tendue vers quelque chose qui est très important. C'est très noble, mais les gens prennent ça mal. Hein. La résignation à Dieu dans les tribulations, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire accepter qu'au fond de la souffrance, Dieu nous aime toujours. Et Dieu tremble au fond un peu avec nous dans notre souffrance. Il pleure avec nous même dans nos souffrances. Se résigner, c'est pas être stupide, c'est constamment croire que Dieu nous aime. Être fidèle. C'est lui qui ne cherche que son propre salut, risque fort de le compromettre par la même. Et aimer Dieu, c'est vouloir aussi le faire aimer. Hein. Et telle est l'exigence de tout véritable apôtre, toute véritable personne qui aime et qui veut faire aimer Dieu, qui veut aider les gens à se libérer, à se sortir de leur petite niaiserie. Tout mystique est habité par ce désir, à plus forte raison dans l'ordre dominicain, dont la mission propre est de faire rayonner la foi, puis de prêcher, puis de convertir. Hein. Cette époque semble tout spécialement réclamer les saints qui vont la ramener à Dieu. Mais quelle époque n'a pas réclamé des saints? C'est ce qu'il faudrait ici, des saints, des saints, des saints. Tu oses plaindre à maintes reprises. Du relâchement de la piété parmi les religieux jusqu'à l'intérieur des couvents de femmes. Tendre et douloureux, il est ému de pitié pour le Christ qui lui semble abandonné et le peuple qui l'abandonne. Et ne voyant pas là seulement le pessimisme, il faut pas voir là seulement le pessimisme plus ou moins voulu, plus ou moins conscient, des espèces de moralistes de tous les temps. Non, 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 non. D'autres témoignages à son époque confirme le sien. D'ailleurs, comment les conditions qu'impose l'interdit favoriseraient-elles la piété chez les médiocres? La piété chez les médiocres ne peut grandir que par la découverte de l'amour de Dieu. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Qu'on cherche pas à transformer notre diocèse autrement que par cette découverte. Quand les hommes et les femmes et les enfants auront trouvé que Dieu les aime d'un amour passionnés, ils seront désireux de le servir. Si les médiocres s'avilissent davantage, nombreux sont les fervents, à un moment donné, que toute cette misère affermie, ils se sentent alors pressés de consoler par beaucoup d'amour ce Dieu souffrant que tant d'autres délaissent. Mais c'est l'enseignement de cette époque. On ne croit pas en un Dieu immobile, immuable, qui n'a pas de cœur, qui est un immense moloch. Non, 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 non. L'enseignement de cette époque est semblable à celui d'aujourd'hui, à savoir que Dieu est plein d'amour et que Dieu souffre de notre bêtise et qu'il veut nous en arracher. Alors, il y a un grand réseau de piété qui s'étend sur toute l'Allemagne du Sud à ce moment. Et les fervents éprouvent naturellement le désir de se rapprocher les uns des autres. Alors, ils s'écrivent, ils s'encouragent. Par toutes sortes de pratiques communes de dévotion, ils chargent de toutes sortes de messages, plus ou moins pieux, les prédicateurs qui circulent de couvent en couvent. Ils échangent les livres mystiques qu'ils écrivent ou qui sont parvenus jusqu'à eux. Ils se nomment volontiers entre eux « amis de Dieu ». C'est beau, « amis de Dieu ». C'est un terme tout simple et clair qui leur semble définir exactement leur dessein parce qu'ils n'ont d'autre désir que d'aimer Jésus-Christ et de s'unir au mystère du Christ par la prière, les sacrements, et s'appliquer à l'imitation de sa vie, selon qu'il est recommandé à tout chrétien, l'imitation de Jésus-Christ. C'est ça la vie d'un chrétien. Dieu en accorde la grâce, et Dieu accorde souvent la grâce de connaître cette union immédiate avec lui chez de nombreux chrétiens, beaucoup plus nombreux qu'on pense. En somme, c'est là le milieu spirituel où évolue Suzo. Il a beaucoup reçu de ce milieu, mais il a également marqué de son empreinte ce milieu. Si Dieu ne l'avait pas suscité parmi son troupeau, on peut croire que la littérature spirituelle serait privée de quelques-unes de ses plus belles pages. Mais les œuvres qui ont été écrites autour de lui n'ont pas eu sans son influence cette profondeur et cette limpidité. Il a été, comme nous l'avons vu, les lèvres de Maître Eckhart. Et peut-être a-t-il rencontré Toller, le fameux Toller, dès son séjour à l'école de Cologne. En tout cas, il est probablement en relation directe avec lui, puisque Toller, ou Tauler, possède un exemplaire de l'Horologium de Henri Suzo, peu après la rédaction de cet écrit. Ainsi que le prouve un texte que l'on retrouve dans les écrits de Henri de Nördlingen. De toute façon, un récit de la vie d'Henri de Suzo, repris et amplifié par des manuscrits moins anciens, nous donne une idée de la vénération qu'éprouve pour Suzo, en particulier ses filles spirituelles, les moniales auxquelles il enseigne. Ayant remarqué la foi et la piété de son père pour le nom de Jésus, que dans un excès d'amour, il a un jour gravé sur son cœur, mais Elsbeth, une moniale, brode en soie rouge les initiales sacrées IHS, qui veut dire Jésus Sauveur des Hommes, Jesus Hominum Salvator. Elle le brode sur un grand nombre de petits morceaux d'étoffe blanche, puis une fois que Henri Suzo vient la voir, Elle le prie de les poser sur son cœur et de les bénir. Elle les distribue ensuite parmi les enfants spirituels de Henri de Suzeau, en invitant ceux-ci à les porter dans une pensée de dévotion, et elle-même fixe à l'intérieur de sa robe celui qu'elle s'est attribué afin que sa piété envers le nom de Jésus s'en trouve accrue. On trouve ça dans l'Épître aux Philippiens, hein? Il me semble c'est au chapitre 7. Très beau texte sur le nom de Jésus. Alors elle le garde ainsi jusqu'à sa mort et l'emporte avec elle dans la tombe. On peut être gêné par cette manifestation toute matérielle d'une vénération à l'égard de Jésus, pas à l'égard d'Henri Suzeau, mais c'est pas tellement étrange de voir cette moniale Elspeth, qui est Élisabeth au fond, porter avec un amour tout à fait respectueux le morceau d'étoffe qui a touché celui qu'elle considère à bon droit comme un saint. Quand on sait que le bienheureux Jourdain de Saxe a échangé, lui, sa ceinture contre celle d'une dame assez noble et dévote pour un mortif analogue de piété, de consolation, c'est curieux, hein? Tout est pur au pur, hein? Tout est pur au pur. Il était un peu plus surprenant que Suzeau se soit prêté à ce désir, mais Henri Suzeau est très bon, puis Elspeth, ben elle semble avoir été très habile pour parvenir à ses fins. Elle savait comment procéder. En somme, la biographie abonde en récits d'épreuves aussi, de toutes sortes, qui se situent à peu près une époque là, vers 1340, 45-50, pendant la période qu'on pourrait appeler la vie publique de Suzeau, depuis 1334 d'ailleurs environ, jusqu'au retour à Constance. Alors on a toutes sortes de faits curieux qui lui sont arrivés. Oh! Des seigneurs veulent le tuer à un moment donné parce qu'il a engagé dans les voies de Dieu la fille de l'un, qui est la femme qu'un autre aimait. Et de tous côtés, bien, Henri Suzeau est décrié, calomnié, mais surtout par les frères de son couvent. Plusieurs maladies l'accablent. Il est victime de divers accidents et de mésaventures aussi, parmi lesquelles une des plus singulières, c'est celle d'un meurtrier. Sur la route, il rencontre un meurtrier. Le meurtrier se confesse à lui. Il lui dit qu'il a déjà tué des moines, les a déjà jetés dans la rivière. C'est épouvantable. Enfin, c'est des récits effroyables. Mais la plus pénible de toutes ces épreuves reste une horrible calomnie dont il est victime. On le voit dans la vie qu'il a écrite. C'est peut-être pas lui, d'ailleurs, qui a écrit tout à fait toute cette vie. La vie donne un récit bien émouvant de l'avertissement intérieur qu'il en a reçu. Un soir, il s'arrête dans une hôtellerie, il est conduit en songe dans un lieu où il doit célébrer la messe. Alors là, il y a des chantres qui entonnent la messe des martyrs. Le serviteur en est péniblement impressionné. Pourtant, cet office, en ce jour, on ne fête pas de martyrs. Alors les chantres le regardent, il le désigne du doigt et dit « Dieu trouvera ses martyrs en ce jour comme il les a toujours trouvés, prépare-toi. » Et chante pour toi-même. Alors, Henri Suzeau feuillette le missel. Il voudrait célébrer une autre messe, celle des confesseurs, par exemple, mais c'est toujours la même qui se présente à lui, et voyant qu'il n'a pas d'autre issue, il commence bien tristement, et cependant, il se reprend encore. Et n'est-ce pas, Gaudeamus, réjouissons-nous, qu'il conviendrait plutôt de chanter? Mais les autres lui rappellent que le chant des martyrs doit précéder le Gaudeamus. Et quand, après cette vision, il revient à lui, son cœur est tout tremblant encore. « Oh Seigneur, Seigneur, dois-je donc subir le martyr ?» Et en chemin, le voyant si triste, son compagnon de route lui demande la cause de son affliction. Il dit « Hélas, mon cher compagnon, il faut que je chante la messe des martyrs. » Mais son compagnon ne comprend pas. Et un étrange pendant à la joie parfaite de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise a cette joie parfaite, et lui essaie de trouver une joie parfaite au creux de son angoisse. Plusieurs passages de la biographie, de la correspondance, parce qu'il y a une longue correspondance de lui qu'on retrouve dans ses écrits, laissent entendre que le bienheureux Henri Suzeau a tenté à diverses reprises de ramener à Dieu des brebis égarées. Il a réussi quelquefois. Et quelquefois aussi, rien de moins surprenant, cette forme d'apostolat lui a causé bien des difficultés, comme à bien des prêtres, de plus en plus aujourd'hui même à des cardinaux. Une de ces femmes, qui nous est présentée comme fausse et hypocrite, dont le cœur est celui d'une louve, sous les apparences du bien, mais elle est tombée, autrefois, dans des fautes plus ou moins abominables, et elle vient trouver Henri Suzeau, qui ne la repousse pas. Le bienheureux Suzeau la confesse, et par la suite, elle lui rend même quelques services, mais cependant, ayant appris qu'elle est retombée dans ses égarements, bien là, il l'écarte. Alors, quand elle se voit démasquée, elle menace Henri Suzeau. Puis, elle passe aux actes. Elle va répéter qu'il est le père de son enfant. Et là, la calomnie a tôt fait se répandre. La réputation d'Henri Suzeau en éternit presque à tout jamais. Ses amis les plus fidèles se détournent de lui. Tout le monde se fait comme Judas. Ses livres même sont désormais en suspicion. Pourtant, c'était des livres spirituels très recherchés. Aucune accusation n'a encore été portée contre lui devant les supérieurs de son ordre, mais bientôt, cette consolation lui est enlevée et le maître général de l'ordre et le provincial viennent dans la ville où la mauvaise femme l'a calomnié. Lorsque le pauvre homme qui a changé de résidence apprend cette nouvelle, son cœur est torturé par une angoisse mortelle. On suppose que si les supérieurs de Suzeau l'ont envoyé à Ulm, ce fut pour mettre fin à ces rumeurs et pour l'honneur de l'ordre des Dominicains. Peut-être faut-il l'identifier avec ce prieur de Constance qui avait été déposé par le chapitre général de Lyon en 1348. De toute façon, peu à peu, son innocence est reconnue, puis la tempête s'apaise. On ne sait pour ainsi dire rien sur les dernières années de Henri Suzeau. Il est probable que ces années-là se sont écoulées entièrement à Ulm, U-L-M, Ulm, couvent d'Ulm. Ce sont des années qui sont coupées seulement par des voyages d'apostolat. On sait par diverses sources anciennes qu'il est mort à Ulm le 25 janvier 1366. Il a été inhumé près de l'autel de Saint-Pierre de Vérone dans l'église des Dominicains, qui est devenu depuis lors un temple de la réforme protestante. Un manuscrit de Munich nous a gardé son épitaphe et la réputation de sainteté du serviteur de Dieu. Henri Suzeau, né parmi les premiers fidèles, n'a fait que grandir après sa mort. Au 15e siècle, une pieuse femme, veuve d'un vice-chancelier de l'empereur Frédéric III, a fait un don au couvent pour qu'une lampe perpétuelle brûle devant son tombeau. Si on l'appelle bienheureux depuis longtemps, ça a précédé son nom dès après sa mort. Ce n'est qu'en 1831, donc 150 ans si on veut, que les enquêtes d'usage ont permis à un procès de canonisation ou de béatification, quoi, a permis à Grégoire XVI de le béatifier. Sa fête était célébrée le 2 mars. Toutes les recherches faites au cours des siècles pour retrouver ses cendres sont restées vaines. Bienheureux Henri Suzeau s'est contenté de nous laisser ses œuvres comme reliqueur de son cœur. Mais sa fête est célébrée aujourd'hui maintenant. En somme, 2 jours avant l'anniversaire de son décès. Parce que l'anniversaire de son décès tombe au jour de la conversion de Saint Paul. Et la conversion de Saint Paul est une immense fête. C'est un maître à tous. Suzeau contredit absolument l'image stéréotypée du saint impassible des hagiographes. En tout cas, nous sommes sûrs qu'il est obstinément demeuré fidèle à la souffrance comme Saint François à la pauvreté. Quand il faisait monter vers la sagesse éternelle son allégresse, ses actions de grâce, elle était là, attentive, certaine que ses cantiques étaient des cantiques qui sortaient de l'intimité du cœur d'Henri Suzeau. Voilà pourquoi il reste tout près de nous, un témoin confident et consolateur pour nos propres détresses. Son influence a été énorme à travers les siècles. Énorme. Elle s'est arrêtée depuis quelque temps, assez récemment. Mais le sentiment joue un rôle capital. L'accent est mis sur l'intimité entre le Christ et l'âme, par la grâce du sacrement de l'Eucharistie. La diffusion extraordinaire de l'imitation de Jésus-Christ, qui en est l'expression la plus parfaite, prouve assez à quel point cette dévotion répondait aux besoins spirituels de la conscience moderne et aimer Jésus-Christ, imiter Jésus-Christ. Voilà ce que demande non plus seulement aux moines, à l'ascète, mais à tout chrétien, son auteur de l'imitation Jésus-Christ, Thomas Kempen. Mais c'était Thomas Kempis ne cite pas toujours ses sources, mais on est sûr qu'il a beaucoup puisé dans le livre de la sagesse éternelle du bienheureux Henri Suzon.